Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour! J'avais envie de me présenter un petit peu sur cette plateforme. Peut-être que vous avez croisé des publications, peut-être que vous avez écouté des podcasts. Donc l'idée, c'est que je me présente un petit peu et puis que je réponde à vos questions éventuellement. Donc moi, je m'appelle Séverine Feiss, j'ai 45 ans. J'étais avant maîtresse en maternelle REP+, dans le 92 à Nanterre, pendant 22 ans. Donc j'ai eu des petites sections, des moyennes sections, des grandes sections. Et ensuite, j'ai participé au dispositif des moins de 3 ans, que j'ai particulièrement bien apprécié parce que c'était des tout petits loulous qui découvraient à la fois la scolarité, à la fois les connaissances, vraiment les compétences du programme alors qu'ils n'étaient à peine âgés de 2 ans pour la plupart, 2 ans et demi, voire 2 ans 3 quarts pour les plus vieux. Et puis toute cette expérience, cette discussion avec les parents m'a permis d'avoir une expertise, un conseil au plus proche de leurs problématiques. Et j'ai adoré avoir des entretiens avec les familles. Donc, c'est un des épisodes du podcast, si vous avez envie d'en savoir plus. C'est l'épisode 18 sur les entretiens avec les familles. Ça m'a donné envie de partager à plus grande échelle. Donc j'ai d'abord commencé par faire un blog pour l'école, où je proposais aux parents d'expliciter un peu ce qu'on faisait en classe, que ce soit les activités artistiques, les activités culturelles, les activités de langage. Donc de donner à la fois les objectifs, nous, en tant que professionnels, qu'on appelle ça la didactique, la pédagogie, et puis d'expliciter en quoi l'action de l'enfant était importante pour l'avenir, pour plus tard, notamment autour des fonctions exécutives. Ça aussi, c'est l'épisode 48, je crois, sur le podcast, si vous voulez en savoir plus. Et le blog ayant bien marché pour les élèves de ma classe, pour les parents de ma classe, un petit peu moins peut-être sur les élèves qui étaient dans les autres classes, parce qu'il faut motiver pas mal les enseignants pour participer au blog, ou à l'application. Donc au début, c'était un blog de l'éducation nationale. Et puis après, c'était plutôt une application. Donc il y a toutemonannée.com, par exemple, et Classroom. Il y a plusieurs applications maintenant qui existent pour partager ce qui se passe dans la classe, dans l'école. Et j'avais fait un sondage récemment où vous m'avez dit qu'il y avait beaucoup de familles qui n'obtenaient pas d'informations sur ce que les élèves faisaient en classe. Donc nous, on appelait ça la coéducation en REP+, et ça nous paraissait important d'expliciter aux parents comment ça se passait dans la classe pour qu'ensuite ils fassent le lien avec les enfants à la maison, ce qu'ils avaient appris, peut-être la chanson du jour, le livre du jour, les compétences en sport aussi, les compétences motrices. Donc l'idée, c'était de partager un peu ce qu'on avait travaillé en classe pour que les parents soient inclus, pour que les parents soient partie prenante de l'éducation et de la coéducation du coup de leurs enfants et de nos élèves. Donc voilà comment est née l'idée du podcast. C'est tout ce que j'avais partagé aux parents à mon bureau, dans ma classe, quand on faisait les entretiens. Et puis, c'est aussi ce qu'on faisait un petit peu sur le blog en tant qu'équipe, en tant que réunion d'équipe. La chance qu'on avait en REP+, c'est qu'on se réunissait beaucoup pour parler de comment améliorer la coéducation avec les parents, comment les faire venir à des événements festifs. Ça pouvait être la kermesse, ça pouvait être les spectacles de théâtre, ça pouvait être la chorale. Donc, dès qu'on organisait quelque chose à l'école, on essayait de faire venir, de passer l'information. Donc on a notamment créé des affiches avec des pictogrammes pour que ce soit plus lisible, plus clair, qu'il y ait moins de texte, plus d'images, notamment pour les familles non francophones, parce qu'il y en avait quand même quelques-unes en REP+. Et puis ces notions que je répétais chaque fois à chaque famille, j'ai eu l'envie de les partager sur le podcast. Ce qui fait que des familles de Corse, des familles de Madagascar, des familles vraiment d'ailleurs peuvent entendre tout ce que je disais à mes parents d'élèves dans mon petit bureau de ma petite classe de maternelle à Nanterre. Et j'ai pas mal de retours, donc je vous remercie à tous d'écouter le podcast et puis de me faire des petits retours sur certains épisodes. J'ai notamment un coucou à Catherine qui a découvert le podcast en tapant sur la barre de recherche Spotify « comptines ». Donc elle est tombée sur mon épisode sur les comptines et elle a fait à son tour une animation autour de l'importance des comptines chez les jeunes enfants dans l'association dans laquelle elle est membre elle-même. C'est une association autour des livres, autour des comptines. Et donc elle était ravie d'avoir eu un contenu comme ça et on est resté en contact. Elle est venue à un de mes ateliers aussi. Donc parfois vous me découvrez par hasard sur Spotify et puis parfois vous m'avez peut-être découvert aussi sur Clubhouse pendant les rooms. Clubhouse, j'ai commencé ça il y a 2 ans à peu près. C'était en mars 2021. Et les rooms, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Clubhouse, ce sont des salons audio où on peut venir discuter ensemble d'un thème. On débloque son micro, on demande à monter sur scène et puis on participe à des thématiques. Donc ça peut être sur l'actualité, sur le dernier film qu'on a vu, sur le développement personnel, sur la pédagogie, sur les NFT. Donc vraiment le thème que chacun a envie d'évoquer. Ensuite, ben, il y a des débats d'idées. Parfois on est d'accord, parfois on n'est pas d'accord, parfois il y a des contre-arguments. Et puis maintenant, ils ont mis un chat, donc on peut aussi répondre aux questions dans le chat. Et puis, ils ont mis des replays. Donc, je vous invite à télécharger l'application, c'est gratuit, Clubhouse. Et vous allez créer votre compte en quelques minutes. Il suffit d'un numéro de téléphone, il n'y a plus besoin d'invitation. Il y a 2 ans, il fallait une invitation pour accéder à Clubhouse. Et là-bas, vous aurez des replays donc sur toutes les thématiques qui vous intéressent. Mon club s'appelle, comme le podcast, il s'appelle Les Petits Plus Zen. Donc, voilà pour le côté pro. J'ai commencé le podcast parce que j'étais déjà dans l'idée d'une reconversion, donc ça m'a fait un pied d'appel. Ce petit moment où je me suis dit, je vais d'abord créer le podcast, voir comment ça me porte avant de quitter l'éducation nationale, ça s'est joué autour de mars 2021. Donc vous voyez, 2 ans aussi de démarrage de podcast. Donc on a fêté déjà la 100aine d'épisodes grâce à vous, grâce aux auditeurs. On est presque à 10 000 écoutes, donc je suis ravie. D'autant que je suis pas sur une grosse plateforme de podcast, je suis pas chez Ocha ou je suis pas chez Acast, donc c'est vraiment plus confidentiel encore comme podcast, mais merci pour vos partages et merci pour vos avis. Et puis à titre donc personnel, j'ai eu une saturation de l'éducation nationale, à titre vraiment intégrité, authenticité, honnêteté sur ce qu'on nous demandait de faire en classe, tout simplement avec des élèves notamment de 2-3 ans. Au bout d'un moment, il y avait des incohérences très très souvent sur ce qu'on nous demandait de faire en classe et ce que je voyais comme état émotionnel des enfants. On nous demandait des compétences psychosociales que les enfants n'avaient pas encore du tout intégrées et pour cause, on n'avait pas non plus expliqué aux parents comment faire à la maison. Donc ce trait d'union qui manquait entre les familles, les élèves et le système scolaire m'a paru très intéressant à creuser. Donc il y a 6 ans, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Je me suis formée en communication non violente. J'ai commencé à dévorer les livres autour des neurosciences, autour de la pédagogie nouvelle, hein, les pédagogies alternatives, on appelle ça. Donc notamment les ouvrages de Céline Alvarez, les ateliers autonomes d'inspiration Montessori. Donc vous avez sans doute entendu parler de beaucoup de choses autour de Montessori. Et l'intérêt qu'on a vu en REP+, c'est que sans avoir du matériel hautement qualifié, sans avoir des jouets Montessori, hein, de nature et découverte ou des jouets qui coûtent très très cher, c'est de maintenir une activité constante que les enfants choisissent, s'imprègnent et vraiment vont plus loin dans la découverte de l'activité. Donc on passe d'une pédagogie où c'était le maître qui transmettait toutes les informations à une pédagogie où l'enfant prend un plateau d'activité, c'est une des bases, hein, des ateliers Montessori. Et dans ce plateau d'activité, il va co-construire son savoir, il va essayer, il va tester, il va ajuster. Parfois, il va évidemment se tromper, errer. Donc la place de l'erreur, elle est très importante dans les nouvelles pédagogies, dans les pédagogies actives, dans les pédagogies où l'enfant co-construit son savoir. Et nous, en tant que professionnels, on a donc une posture différente de ce qu'on nous a enseigné à faire à l'école d'instit, donc l'école normale pour les plus anciens d'entre vous, et puis l'IUFM pour les plus récents, et puis les tout jeunes instit, maintenant ça s'appelle l'ESPE. Nous, c'était très descendant à l'époque quand on a commencé, il y a 22 ans. Maintenant, on arrive à redescendre à la hauteur des élèves et se dire qu'il faut prendre en compte leur bagage. Ça avait commencé par un mouvement qui s'appelait la main à la patte d'un scientifique qui s'appelait Georges Charpak, qui avait fait un gros buzz dans les écoles où il fallait mettre les enfants en situation de découverte. Donc on leur donnait des situations problèmes comme, tiens, comment faire pousser cette plante? Et les enfants faisaient des hypothèses, posaient leurs savoirs initiaux, hein, finalement, leurs croyances autour de, tiens, une plante, ça pousse comment? Et après, on mettait en test réel, grandeur nature, avec bah, une plante qu'on n'arrose pas, une plante qu'on met dans le noir, une plante qu'on met dans le sable, une plante qu'on met dans le coton. Et c'était les enfants qui tiraient des conclusions. Et c'est là où on appelle ça des pédagogies, où l'enfant s'approprie le savoir et l'adulte n'est plus le passeur directement. Par contre, l'adulte met en situation le matériel pour que l'enfant puisse comprendre sans avoir besoin de secouer la manche de l'instit et de dire « Ah, dis-moi, c'est quoi la réponse ?» Donc, on rend l'enfant acteur. Et si vous regardez les ouvrages de Montessori, qui ont quand même une centaine d'années, c'était exactement ce qu'elle décrivait, alors que les conditions pour elle étaient très différentes. Ce qu'elle demandait dans des locaux surpeuplés avec beaucoup d'enfants. Au début, elle utilisait même des enfants qui étaient à la marge, hein, qui avaient été rejetés du système. Elle a créé son propre matériel pour que les enfants apprennent par la manipulation. Donc, ce que j'ai mis en place dans le dispositif de moins de 3 ans a fait des effets très rapidement. Je me suis reculée comme posture pour que les élèves puissent prendre en main leur savoir. On a fait ça au niveau du langage, au niveau des comptines, au niveau de la lecture, au niveau du graphisme, de la motricité. Et ce que j'aimais, j'en parle dans l'épisode où les parents viennent en portes ouvertes, c'est que les parents étaient étonnés en fait que je ne donne pas plus de consignes et d'informations et que je ne guide pas constamment. Parce qu'à la maison, pour certaines familles, c'est fais ceci, fais cela. Ils ne laissent pas l'enfant décider et réfléchir de l'étape à venir. Donc, je vous invite à voir si vous vous donnez tout ce qu'il faut faire point par point ou si vous invitez, si vous proposez à votre enfant de réfléchir à la situation actuelle et de s'emparer de « tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour résoudre ce problème ?» Tout simplement, un exemple vraiment banal, ce serait de dire « ah bah regarde derrière la fenêtre, quel est le temps actuellement ?» Et si l'enfant constate qu'il pleut, de juste lui dire « bon, comment on fait alors quand il pleut ?» Et au lieu de lui dire « va chercher ton imperméable, va mettre tes bottes, on va y aller en voiture ou pas de trottinette parce qu'il pleut », qui sont des conséquences que l'adulte fait très rapidement, parce que nous, on a les neurones qui vont très très vite, hein. Nous, on a de la bonne myéline qui passe dans notre cerveau, alors que l'enfant, il n'a pas tout de suite le réflexe de mettre en lien la température ou la météo avec ce qui va agir maintenant. Donc, de créer de l'explicitation de situation avec votre enfant, et comme j'avais 16 élèves maximum dans le dispositif, j'étais capable de le faire. Alors que mes collègues qui avaient 22, 24, 28 élèves parfois ne pouvaient pas faire ça avec chaque élève. C'était beaucoup plus difficile à faire. Donc moi, j'ai eu beaucoup de satisfaction à voir que mes élèves allaient beaucoup plus vite et que quand les enfants s'appropriaient le savoir, moi, je pouvais aussi me réjouir de ne pas être celle qui sait, mais qui fait comprendre à l'enfant qu'il sait déjà des choses et qui peut asseoir son savoir. C'est subtil, hein, donc si vous avez des enfants, ça va sans doute vous parler, parce que quand ils reviennent de l'école, ils sont très fiers d'avoir compris quelque chose ou réussi quelque chose. Par contre, quand ils reviennent de l'école et qu'ils ne se sont pas appropriés la notion, ils sont plutôt en baisse estime d'eux et qu'ils n'arrivent pas trop à savoir si ils ont déçu l'enseignant, si la posture de l'enseignant est content de lui. Et donc, nous, en tant qu'enseignants, en tant que professionnels ou en tant que parents, parce que les trois vont être pareils, hein, que vous soyez animateur ou que vous soyez maman, c'est de reformuler pour que l'enfant pose lui-même sa situation. Donc, leur laisser le temps d'observer. Et en plus, le fait que on peut observer la même chose avec notre enfant, mais nous, on ne va pas faire les mêmes liens. Ça veut dire que moi, quand je vais voir la pluie, tout de suite, je vais me dire « Ah oui, mais elle voulait mettre ses sandales. Si elle met ses sandales sous la pluie, elle va avoir les pieds mouillés. » Elle risque de tomber malade. J'ai pas envie qu'elle tombe malade parce qu'il n'y a pas de possibilité de réservation de médecin, etc. Nous, on a 6 ou 7 coups d'avance parce qu'on a l'habitude, on a l'expérience. Et parce qu'entre nos parties de cerveau, ça va très très vite, les connexions. Alors que l'enfant, lui, pluie égale pas pied mouillé tout de suite. C'est avec l'habitude qu'on va lui proposer des connexions entre les liens comme ça. Et ça, bah, l'enfant, il le sait pas tout de suite, hein. Il le sait par la répétition. Donc, toutes ces petites brindilles de changements que j'ai mis dans ma classe, j'en ai parlé un petit peu en réunion. Il y a des collègues qui ont testé des choses dans leur classe et puis avec la quantité d'élèves, c'était plus difficile. Et moi, j'ai continué un peu mon chemin comme ça. Et pourquoi j'ai quitté l'éducation nationale? Du coup, pour ceux qui ne le savent pas, donc vous pourrez retrouver un peu mes aventures dans le podcast autour du nouvel an de l'année dernière. J'avais fait un petit épisode bilan, je crois que c'est le 39. Et j'expliquais que d'avoir été dans ce dispositif, ça a redonné du sens vraiment à ma pratique. Ça m'a beaucoup plu. Et puis, c'était un poste un peu fléché. Donc, les postes fléchés au niveau administratif, ça veut dire qu'il faut passer un entretien pour rester sur ce poste-là. Et cet entretien, quand le poste avait été créé, comme personne n'en voulait, je n'avais pas passé l'entretien. Donc, administrativement, je n'étais pas bloquée sur ce poste, ce qui fait que le poste était passé au mouvement. Donc, le mouvement, pour les enseignants, c'est une sorte de chaise musicale tout à fait géniale où les enseignants peuvent se placer sur des postes vacants. Et quand j'ai vu pendant le confinement que le poste était noté vacant, je me suis dit donc je suis éjectée de ce poste de dispositif des moins de 3 ans dans un contexte où on nous demande des choses de plus en plus incohérentes par rapport à des élèves de 3-4 ans de REP+, sans nous donner vraiment les moyens en équipe de réfléchir, de co-construire à des projets qui soient vraiment utiles pour que les familles puissent en coéducation renforcer le langage, renforcer la lecture, prendre conscience des impacts des écrans, de l'alimentation, du sommeil. Donc tous ces thèmes qui ont l'air aléatoires et extérieurs à la scolarité m'ont vraiment beaucoup fait comprendre que l'enfant, quand il arrive le matin dans ma classe de moins de 3 ans, s'il n'a pas déjeuné, s'il a mal dormi, s'il s'est couché tard parce qu'il a regardé la télé, parce que son père ne veut pas lui dire non, parce que son père ne veut pas lui dire d'aller se coucher, et bien tout ça sur la scolarité, ça joue. Et ça joue à 3 ans, mais vous entendez bien que si ça commence à 3 ans, il y a une certaine accumulation, en fait, qui ne se fait pas dans la prise de compétence du jeune enfant. Si à 3 ans, il n'écoute pas l'enseignant parce qu'il est trop fatigué, s'il n'est pas disponible parce qu'il n'a pas mangé, s'il est perturbé au niveau de son quota d'attention parce que le matin, il a regardé Peppa Pig pendant une heure avant de venir à l'école, ce sont des incidences sur le reste de sa journée d'école. Donc, je l'ai constaté avec plusieurs de mes petits élèves de 2 ans. J'ai mis en place des ateliers de parentalité pour parler dans ma classe avec les parents des écrans, de l'alimentation, du sucre, de l'autorité, des caprices. Et là, je me suis sentie vraiment revivre. Ça a fait sens dans ma pratique et j'ai beaucoup aimé cette notion d'expliquer aux parents ce qu'on faisait en classe et de prendre le temps de leur poser des questions sur comment ça se passait à la maison. Dites-moi comment ça se passe à la maison pour votre enfant, que je comprenne pourquoi à l'école il réagit comme ça. Et le lien de confiance qui s'est créé avec les mamans, avec les papas, j'ai eu des papas aussi en atelier de parentalité, m'a vraiment laissé penser que c'est ce petit bout de triangle qui manquait cruellement dans l'éducation nationale et particulièrement en REP+. Au moment du confinement, quand les dispositifs ont été fermés, comme toutes les autres classes, j'ai commencé à envoyer chaque jour des idées d'activités aux mamans. Des activités avec du matériel qu'elles avaient à la maison. Donc ça pouvait être avec des pinces à linge, avec des rouleaux de papier toilette, plier le linge, arroser les plantes, se promener dans le quartier et dire le nom des fleurs avec l'enfant, lui faire dessiner tel ou tel objet. Donc de guider vers quelque chose qui soit pour l'enfant cohérent par rapport aux compétences qu'on attend de lui. Pourquoi ? Parce que certaines mamans m'ont dit « Oui, mais j'ai tapé sur Pinterest ou sur Instagram, fichier, petite section, et je vais lui faire faire le fichier. » Alors que ça n'a pas de sens de faire remplir un cahier de vacances ou un fichier à un enfant de 2, 3 ou 4 ans. L'enfant de 2, 3 ou 4 ans, il doit manipuler des vrais objets, des vrais puzzles, des vrais blocs de construction, des caplas, que ce soit concret, que ce soit sensoriel et psychomoteur. Ça veut dire que ce qu'il va se raconter sur l'objet, ce qu'il va comprendre avec l'objet, va faire sens avec ce qu'il a déjà vu ou ce qu'il découvre pour la première fois. Oui, il y a plein de jeux sur la tablette. Oui, il y a plein de jeux qui existent en numérique. Mais de passer par les sens, de construire, de voir la tour tomber, fait plus de liens dans son cerveau que des jeux qui sont uniquement en 2D sur la tablette ou sur l'écran. Donc les mamans que j'ai eues au téléphone me disaient « J'étais étonnée, il prend beaucoup de plaisir à arroser les plantes, il m'a aidé à plier les torchons. » Ce sont des ateliers de vie pratiques. Donc ça aussi, c'est la pédagogie Montessori. Et je vous invite à voir que si ça fait sens pour vous, On en parlait à l'atelier l'autre fois sur Maison Zen. Si ça fait sens pour vous de montrer que passer l'aspirateur, ça a un effet d'apaisement, d'harmonie dans votre maison, l'enfant, il a envie de passer l'aspirateur avec vous. Il a envie de participer à votre séance de fly. Donc ça, toute la notion des fly lady et des challenge fly lady, je vous laisserai chercher, si vous voulez, sur mon profil dans les tequils qu'on fait avec Siana, la petite. Au niveau perso, je vous avais proposé aussi des petits éléments. Donc moi, ma grande, elle a maintenant 16 ans, elle est en seconde. La petite, elle est en moyenne section, elle a 4 ans. J'ai eu du mal à l'accompagner à l'école au moment où je commençais à quitter l'éducation nationale. Il y a eu une transition un peu délicate en espérant qu'elle ne paye pas le prix de ma désillusion de l'école publique. Et elle est tombée sur deux maîtresses vraiment formidables en petite section l'année dernière et en moyenne section cette année. Donc je suis vraiment pleinement rassurée. On n'est pas dans la ville où j'enseignais, on est dans une ville où il y a peut-être un petit peu moins de problématiques que dans le REP+. Et donc, elle s'épanouit complètement avec une maîtresse qui est en atelier autonome, qui est à la hauteur des enfants, qui communique beaucoup, donc qui est très proche de ce que je partage dans le podcast. Donc, je suis ravie, ça me fait beaucoup de bien de me reposer sur cette équipe enseignante. Et puis, bah là, on va co-organiser une kermesse. Donc, je suis ravie aussi de reprendre tout doucement contact avec l'éducation nationale, même s'il y a eu une année un peu compliquée où j'avais du mal à deuiller, hein, dans mes outils, j'appelle ça deuiller mon lien à l'éducation nationale. Je voulais vous proposer des petits fun facts aussi. Sur moi, c'est que je déteste le café. Je ne bois pas du tout de café, donc toutes les réunions en salle des maîtres, les conseils d'école où on m'a proposé du café pendant 22 ans, je leur disais non, vraiment, je ne bois pas de café, je n'aime pas l'odeur du café. Petit fun fact aussi, je n'aime pas spécialement conduire. Donc, je fais plus de choses à pied en transport en commun parce que j'aime moyennement conduire. C'est quelque chose qui me met un peu en insécurité. J'ai encore des choses à travailler là-dessus. Et puis, un petit troisième fun fact, c'est que je suis en parallèle prof de salsa et instructrice de Zumba. Donc, j'en parle pas spécialement beaucoup, mais c'est quelque chose qui m'a permis de prendre de la distance avec l'éducation nationale, de me faire des tequils, hein, de décharger au niveau physique, d'aller donner des cours de salsa, d'aller voir mes petits élèves de salsa. Au début, avoir du mal à coordonner le haut, le bas, le pied gauche, le bras droit, tour à droite, délicano et tout ça, si vous connaissez un peu la salsa. Et puis pareil en Zumba, ça c'est un petit peu plus connu en Zumba. Vraiment, de partir sur la musique, d'y aller à fond, de faire transpirer son corps et de sortir du cours de Zumba en se disant « ça m'a vidé la tête ». Et quand mes élèves de Zumba me disaient « Séverine, tu vois, je suis arrivée au cours de Zumba, j'étais saoulée, j'en avais marre, je savais même pas si je voulais venir. Et à la fin de ton cours de Zumba, ben vraiment, je suis contente, je suis fatiguée. Parce que oui, mes problèmes ne sont pas réglés, hein, bien entendu, les miens non plus. Quand j'allais au cours de Zumba, je savais bien que mes problèmes m'attendraient à la fin. Mais c'est un moment de plaisir, c'est un moment suspendu, c'est un moment où le corps, ben, déjà, mémorise une chorégraphie. Donc, on est un peu attentif à la musique, attentif à notre mouvement, notre coordination, pas se blesser s'il y a des sauts, s'il y a des squats et tout. Et puis, au niveau physique, ça détend. Ça détend parce qu'il y a l'endorphine, il y a la transpiration, la motivation, les muscles qui travaillent. Donc, voilà des petits points que vous auriez pu ne pas entrevoir si vous me découvrez seulement. Donc, le podcast, pour avoir vraiment plein d'éléments par thème, si vous avez envie d'avoir un guide un peu plus détaillé, je vous invite à écouter l'épisode 100, où j'explique point par point toutes les catégories du podcast. Donc, il y a une catégorie sur à quoi servent les besoins, une catégorie sur les émotions fortes de l'enfant, il y a une catégorie sur comment créer sa propre parentalité, une catégorie sur les comportements qu'on n'accepte pas chez nos enfants, comment les régler autour des caprices, des bêtises, des punitions. Et puis, vous allez retrouver un thème autour de l'école, la première entrée, la séparation, un thème autour du développement moteur de l'enfant et du développement cérébral, où je parle spécifiquement comment on présente les livres, comment on chante, à quoi ça sert de faire de la motricité globale tous les jours. Donc, des thématiques assez spécifiques sur certains épisodes. Et puis, une grande thématique autour du langage, parce que la relation familiale parent-enfant, elle va se baser aussi sur comment on communique à nos enfants notre vision de la vie, nos consignes, nos règles de vie. Donc, il y a aussi une catégorie sur l'autorité. Comment on installe les règles en famille? Parce que, il y a beaucoup de parents qui viennent me voir et qui me disent, mais ils m'écoutent pas. Ils m'écoutent pas. Je suis obligée de crier. Pourquoi est-ce qu'ils ne m'écoutent pas? Donc, l'enfant vous entend. C'est clair. Je peux vous rassurer. Il vous entend. Par contre, qu'il vous écoute, c'est pas la même compétence. Entendre et écouter. Donc, il y a une sorte d'alliance qui doit se faire entre le message que vous envoyez, le message qu'il reçoit et comment ça se pose sur ce qu'il comprend déjà des règles, de l'environnement et puis son état physiologique, son état affectif aussi. Et je vais vous renvoyer vers un de mes outils que vous connaissez peut-être, qui est l'arc-en-ciel de besoin. Si à ce moment-là, dans l'arc-en-ciel de besoin de votre enfant, il y a des choses qui clignotent, s'il n'est pas en état d'écouter, de réfléchir, en effet, il ne va pas répondre à votre sollicitation. Donc à chaque fois qu'on va demander quelque chose à notre enfant, il faut regarder si les conditions sont réunies, si notre message est assez clair, si on arrive à formuler précisément ce qu'on attend de lui au lieu de lui balancer un interdit. On va plutôt lui formuler une consigne, quelque chose qu'on attend de lui. Donc voilà des petites choses que vous allez découvrir dans le podcast. Vous avez aussi les Room Clubhouse pour interagir en direct. Dans le podcast, vous ne pouvez pas vraiment poser de vos questions, alors que sur Clubhouse, si vous téléchargez l'application, vous pouvez me retrouver dans des rooms qui sont en direct. Et la différence avec les lives, c'est que vraiment, vous pouvez participer vous-même, monter sur scène, poser votre question. Vous pouvez aller écouter en replay. Par rapport à mon nouveau métier, donc maintenant, je suis facilitatrice en parentalité. Ça se définit en termes de vous m'apportez une situation que vous vivez actuellement et que vous voulez faire changer, que vous voulez faire évoluer. Je vous donne un exemple des 4 dernières séances que j'ai faites en individuel. Donc, il y a une maman qui mettait pour la première fois son petit garçon chez la nounou. Et donc, elle s'est sentie vraiment très serrée au niveau de ses émotions à elle. Elle avait l'impression d'abandonner son fils chez cette dame, alors que c'est un transfert d'autorité, hein, un transfert de figure d'attachement. Donc, on a, au cours de 3 séances, démêlé tout ce qu'elle ressentait dans sa cheminée des émotions à elle. On a aussi explicité tous les bienfaits que son fils aille chez cette assistante maternelle, le lien de confiance à créer, le dialogue à créer avec cette professionnelle qui est différente de nous. Et c'est la difficulté quand on est maman, c'est de laisser son petit bout à quelqu'un qu'on ne connaît pas foncièrement, qu'on a juste rencontré. Donc il y a une confiance. La confiance, elle se base aussi sur ces flammes de peur, hein, qu'on ressent quand on est loin de notre enfant, surtout si on l'a élevé pendant 1 an, 18 mois, parfois avant de le laisser pour la première fois. Donc ça, c'est un des thèmes que je travaille avec les mamans en individuel. J'ai aussi travaillé autour du choix de l'école. Donc c'était une maman qui avait 3 groupes scolaires autour d'elle et qui hésitait. Donc il y avait 2 écoles privées, 1 école publique. Donc on a débattu ensemble des bienfaits pour son fils de s'inscrire dans telle ou telle école. Quelles sont les conséquences à long terme? Elle voulait mon avis aussi d'ancienne enseignante sur ce sujet-là. Avec une troisième maman, on a travaillé son rapport à la frustration de ne pas finir ses journées dans le calme. Elle trouvait qu'elle arrivait à maintenir une journée assez paisible dans l'ensemble, hein, le matin, le midi, et puis le tunnel du soir, ça la mettait hors d'elle, et elle s'en voulait ensuite de coucher les enfants dans une sorte d'agacement en fait mutuel où elle avait plus trop de patience. Donc on a reformulé que les besoins du parent pour qu'il soit au top le soir pour le tunnel ont peut-être besoin d'être anticipés. Parce que nous, on peut canaliser notre énergie pour le soir, alors que l'enfant a toutes les chances le soir d'être suragacé. Parce qu'il a toute sa journée derrière lui. On ne sait pas s'il a fait l'assiette, on ne sait pas ce qui s'est passé à l'école, s'il s'est disputé avec son meilleur ami et tout ça. Donc, une fois de plus, on va revenir sur notre colline de parents, voir quels sont nos besoins qui clignotaient aussi et quelles sont nos flammes qui étaient déjà dans notre cheminée des émotions au moment où l'enfant n'a pas voulu entendre, écouter, faire les routines du soir, ou s'est opposé ou a déclenché une crise, ce qui est aussi naturel. D'une manière générale, si vous m'écoutez dans le podcast ou si vous voyez mes publications, vous allez voir que j'utilise tout le temps le terme le comportement de l'enfant est logique, le comportement de l'enfant est lié à ses besoins et à ses émotions. Par contre, que ce soit acceptable pour vous, ça peut être reformulé, ça peut être modifié, vous pouvez enseigner à votre enfant, vous pouvez transmettre à votre enfant que ces comportements-là, pour vous, ne sont pas acceptables. Mais en réalité, il fait ce comportement-là, parce que ce comportement-là est une des stratégies pour nourrir son besoin au moment où il le fait. Que ça nous dérange, c'est compréhensible, c'est logique. Nous, on a une grille d'observation qui est différente de celle de nos enfants. Donc ça aussi, on peut venir en séance en disant, je ne comprends pas pourquoi mon fils mord, tape à la crèche. C'est aussi une séance que j'ai eue. Ou alors d'autres thématiques du genre je voudrais que papa s'implique plus, comment est-ce qu'on peut remettre un peu de communication au centre de notre vie de couple? La palette de questionnement est assez large, je vous invite à voir que tout ce qui vous défie au niveau de vos émotions de femme, tout ce qui vous défie au niveau de vos émotions de couple parental et tout ce que vous avez comme difficulté avec votre enfant, on peut le passer au filtre de ces outils. Donc l'arc-en-ciel des besoins, la cheminée des émotions. Il y a un outil qui s'appelle aussi le Tequil, qui est de créer des temps de qualité avec les gens qui nous sont chers. Donc avec votre enfant, je vous enseigne à créer des temps de qualité avec chacun de vos enfants, des temps de qualité avec votre mari, avec votre partenaire de vie, et des temps de qualité aussi avec vous-même, parce que vous êtes la base, vous êtes le réservoir utile pour que tout se passe bien à la maison. Plus en tant que maman, vous allez avoir de réserve et de distance et de recul, plus vous allez pouvoir comprendre le besoin de l'enfant qui clignote, son comportement, et le reformuler de manière à ce que tout le monde avance tranquillement. Vous-même, quand vous êtes démuni avec vos flammes de cheminée, c'est très logique que vous soyez agacé par le comportement de votre enfant. Comme certains élèves dans ma classe, au bout d'un moment, j'étais dépassée par le nombre de comportements, par le nombre d'élèves, et donc j'étais obligée d'aller explorer ce qui se passait en moi, dans ma cheminée, sinon je me serais mis à hurler comme un dragon, comme certains de mes collègues. Quand vous voyez des gens hurler dans le train, dans le RER, dans la file d'attente, c'est des gens qui sont dépassés par leur flamme d'émotion. Donc peut-être qu'ils n'ont pas eu une éducation émotionnelle quand ils étaient petits, peut-être qu'ils ne sont pas encore appropriés des outils de régulation émotionnelle tels que je vous les transmets, mais tels que vous pouvez les trouver aussi ailleurs. Il y a de la théorie polyvagale, vous pouvez aussi vous renseigner sur la régulation du système nerveux à ce propos-là. Mon apport, ma différenciation, je pense, c'est d'avoir observé des enfants et des familles relationnées pendant 22 ans et de rentrer par cette porte-là. De vous proposer des comportements alternatifs, des stratégies alternatives pour que vos enfants et que votre projet parental puisse s'accorder. Parce que vous avez chacun un projet parental différent, vous avez chacun un mode de vie qui est différent. J'ai des mamans qui travaillent en horaire décalé, j'ai des mamans solo, j'ai des mamans où il y a une alternance de week-end avec un papa où c'est compliqué. Donc toutes ces clientes-là ont des vies différentes et leurs enfants vont rentrer un petit peu dans la courbe et le virage de cette vie-là. Donc un livre de parentalité, un podcast de parentalité vous donnera toujours des clés, bien entendu. Mais si vous voulez du sur-mesure, ben, je vous invite à réserver un scan individuel. Vous le trouverez dans ma bio. Un scan individuel, c'est 45 minutes. On creuse votre émotion dans votre cheminée, on creuse votre arc-en-ciel de besoin, on creuse l'émotion de votre enfant et puis son arc-en-ciel de besoin. Parfois, il suffit d'une seule séance pour débloquer une situation. Et puis parfois, on peut en faire deux ou trois. Parmi les autres offres, il y a aussi un cercle de parole entre mamans où on vient déposer, lâcher tout ce qui est trop lourd parce qu'on ne peut pas toujours en parler à sa meilleure amie, on n'ose pas toujours en parler à son conjoint, à sa mère, à sa meilleure collègue de bureau. Donc c'est un lieu safe, c'est un lieu sécure pour venir déposer les flammes qui sont trop fortes, parfois de culpabilité, parfois de colère. Ça peut être de colère contre la belle-mère, ça peut être de peur pour son ado. Donc toutes les flammes qu'on n'arrive pas à traverser tout seul, on ne va pas les scanner comme on fait dans une séance individuelle, mais on va au moins les visibiliser, les déposer avec des gens qui ont sensiblement des flammes, pas sur les mêmes situations, mais des flammes qui sont similaires. Ce cercle de parole, il est une fois par mois, 2 heures sur Zoom. Et puis après, il y a des offres un peu plus complètes. Donc il y a notamment le parcours émotizen qui alterne des vidéos que vous pouvez regarder directement chez vous sur une plateforme en autonomie. Donc, il y a des mamans qui le regardent très tôt à 7 heures du matin avant d'aller à l'école avec les enfants ou très tard le soir quand le papa est en train de bosser de son côté. Donc vous êtes libre de débloquer toutes les vidéos. Il y en a à peu près 25. Et puis en parallèle, on a des lives et on a un WhatsApp pour échanger. Donc les mamans sont très contentes de ce WhatsApp parce qu'elles ont les situations pratiques en direct. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter les épisodes 83 pour avoir le détail du parcours émotizen et puis 84 à 87 où vous entendrez les témoignages de Jeanne, de Mathèle, d'Alexandra et de Valsou qui étaient clientes dans le parcours émotizen de 2022. Dernière option que je fais actuellement, notamment avec Amandine, c'est un accompagnement sur mesure individuel Donc 8 séances sur 6 mois où on est 11 heures ensemble. Donc on définit un objectif plus précis. Là, on est vraiment dans le sens coaching individuel. Donc si vous n'avez jamais entendu parler de coaching individuel, l'idée est de venir avec la situation que vous voulez travailler en priorité, de définir un objectif ensemble, de créer les premières étapes du plan d'action et puis d'ajuster à chaque séance pour voir comment vous avancez. Donc ça peut être une problématique autour de comment créer du temps pour moi, hein, c'est une des problématiques que j'ai eues en accompagnement long individuel, ou alors une autre maman qui voulait réserver du temps avec chacun de ses enfants parce qu'elle sentait qu'elle était débordée par le nombre d'enfants. Elle n'arrivait pas à prendre du temps avec chaque enfant, donc on a mis en place ces choses-là. Ou alors, pour une autre maman, c'est comment se reconvertir, comment bien choisir sa reconversion sans impacter sa vie perso, donc équilibre vie pro, vie perso. Donc vous voyez, entre l'accompagnement long et puis l'accompagnement à la séance, c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez associer. Ça peut juste commencer par des séances en individuel si vous voulez tester la méthodologie. Ce sont des outils que vous ne retrouverez pas ailleurs. Ce sont des outils que j'ai créés en classe. Donc l'arc-en-ciel des besoins, la cheminée des émotions, il n'y a personne d'autre qui transmet ces outils-là. Donc si vous voulez venir les tester, je vous invite à réserver un scan individuel dans la bio Instagram par exemple, où vous tapez les petits plus zen et puis vous devriez trouver le lien vers Facebook ou Clubhouse si vous avez envie d'en savoir plus sur ces offres-là. Le parcours Emotizen va réouvrir ses portes. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'être à la fois en individuel, à la fois en live avec d'autres mamans qui échangent dans le WhatsApp, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, bah, je vous invite à regarder dans mes stories si l'offre vous intéresse, parce qu'il y a un petit cadeau là d'entrée, c'est vraiment les préventes VIP. Voilà pour les offres d'accompagnement. Ma spécificité, c'est d'avoir vu beaucoup de situations en 22 ans. Donc, je ne dis pas que j'aurai la solution immédiate, mais je vais vous aider à réfléchir à plusieurs pistes que vous pourriez mettre en place de votre côté. Ne croyez pas que tous les coachs ont toutes les solutions. Moi non plus, je n'ai pas toutes les solutions, mais je vous invite avec mes outils à décortiquer votre situation en fonction de vos besoins, de vos projets parentaux. Est-ce que vous avez envie de vous orienter vers la parentalité empathique? Est-ce que vous avez envie d'une parentalité plus traditionnelle? Où est-ce que vous en êtes de votre cadre, vos limites? Comment vous faites pour vous faire obéir et respecter? C'est des mots qu'on me demande beaucoup. Moi, j'ai plutôt l'idée d'une coopération entre les parents et les enfants. Mais pour ça, il faut être prêt. Parce que c'est confrontant de laisser les enfants agir et de leur faire comprendre les conséquences de leur acte quand nous-mêmes, on n'a pas eu le droit d'agir et de prendre conscience de la conséquence de nos actes. Là, c'est un autre épisode, c'est sur l'héritage parental qui est dans l'épisode 74. Si vous avez des questions, je vous invite à me les envoyer en message privé, à me contacter directement ou à écouter les épisodes qui vous font sens à votre actualité du moment. Et puis si autour de vous, vous avez des parents qui se posent beaucoup de questions sur la parentalité, dans un premier temps, ben, je vous remercie de leur envoyer peut-être le lien vers ce profil, de leur proposer d'écouter les petits plus zen ou de regarder les publications sur mes comptes TikTok, Instagram ou Facebook et pourquoi pas de venir discuter avec moi sur Clubhouse ou en réel ou en ligne. Si c'est quelque chose qui vous intéresse pour une organisation ou une association où vous êtes, que je vienne faire aussi de la guidance parentale dans vos locaux, c'est quelque chose qui peut se faire et qui m'intéresse beaucoup. Donc aller directement sur place et rencontrer les parents et puis leur donner quelques clés. Hein. Ce n'est pas des consultations longues, ce n'est pas des scans entiers, mais c'est des petites astuces pour se faire comprendre et pour avancer sur la notion de l'écoute active des besoins, l'écoute active des émotions de l'enfant et puis ne pas s'oublier aussi en tant que parent parce qu'une partie des mamans qui me suivent et qui travaillent avec moi se disent « j'ai complètement lâché, j'ai fait passer mon enfant et ses besoins avant les miens, je suis fatiguée, je suis épuisée, je suis éteinte. » Et c'est un des symptômes aussi qui risquerait de conduire à un burn-out parental, à un épuisement parental. Donc si vous vous sentez très fatiguée, si vous vous sentez à bout, ça peut être l'occasion de venir poser ce qui se passe en vous, ce qui se passe dans votre famille. Si vous sentez que la charge mentale est trop lourde, que vous avez la charge éducative hein, de la maison, de l'organisation, la logistique et tout ça, on peut aussi en discuter, ça fait partie des thèmes d'accompagnement autour de la parentalité. Si vous avez d'autres questions, je suis à votre disposition en privé. Régulièrement, j'utilise les questions que vous m'envoyez en message privé, soit pour compléter la Zen Letter. Donc, si vous voulez recevoir des informations, vous pouvez vous inscrire dans ma bio aussi. C'est un samedi sur deux. Je vous remercie d'avoir été présent pour ce live. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.